Bonjour tout le monde. Vous allez bien? J'espère que la semaine a été profitable pour vous, malgré peut-être la température un peu coussi coussa, là. On espère toujours que le printemps va arriver à un moment donné. Mais faites-vous-en pas, là, à un moment donné, il va finir par arriver. Hein? On vit d'espoir. Alors ce matin, comme Yannick nous l'a indiqué tout à l'heure dans son mot de bienvenue, on termine ensemble l'Épître aux Romains. Alors ce matin, on va notamment aller voir qu'est-ce que Romain a à nous dire, qu'est-ce que l'apôtre Paul a nous dire dans le chapitre notamment 14 et 15 de ce livre captivant. Moi, j'ai été séduit par notre aventure dans ce livre. Et ce matin, pour clôturer un peu le livre de Romain, je me suis vraiment mis dans mes plus beaux atours. Avez-vous vu mon chandail? Ah, en passant, le CH, c'est pas pour chrétien, hein? C'est pas pour chrétien, mais mon nom de famille, c'est Richard, fait qu'il faut bien que ça paraisse quelque part, tu sais, avec Henri puis Maurice, là, faut que ça... Dans ma famille, je prends pas pour le Canadien, j'ai pris une année, j'ai osé prendre pour les Nordiques, et je m'en fais encore parler 25 ans après. Ce matin, j'aimerais simplement souligner, c'est vraiment intentionnellement que j'ai mis ce chandail-là ce matin, c'est pas nécessairement pour bénir la victoire de ce soir, mais sincèrement, j'ai mis ce chandail-là parce que je sais que pour certains d'entre vous vont peut-être se sentir un peu mal à l'aise avec ce concept-là. Pourquoi, Miguel, tu mets un chandail du Canadien? T'es pas supposé focusser sur Jésus, porter nos attentions dans la parole. Ça nous sort de notre bulle. OK, j'assume complètement ce que je fais ce matin en portant ce chandail-là et je sais très bien qu'il y en a parmi vous, ça va peut-être énerver, agacer, ça va les rendre mal à l'aise. Puis c'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle une opinion. Pour différentes raisons, on peut être d'accord ou non avec le port de ce chandail, mais à un moment donné, quelque part, en Jésus-Christ, ce qu'on a vu notamment la semaine passée dans toute la série qu'on a vue dans le Romain, c'est qu'à un moment donné, en Jésus-Christ, Dieu nous a soudés spirituellement ensemble. Et que si on passe notre temps à essayer d'évaluer si telle opinion est plus biblique que telle autre, eh bien, à un moment donné, on va déraper et on va oublier qu'on est une famille. On est une famille. Dans le livre de Romains, on nous indique clairement que grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, grâce à sa résurrection et à sa mort, Dieu nous a accueillis, il nous a reçus dans sa famille. Une famille qui s'appelle l'Église. En payant les dettes, la dette de nos fautes, Jésus-Christ à la croix nous a permis d'entrer dans un nouveau rapport, non seulement avec Dieu, mais également avec les autres. On a vu la semaine dernière que Paul nous a incité à développer la pensée que lorsque notre cœur est ravi et saisi par la pensée de l'Évangile, il y a une chose qui arrive, c'est que non seulement on se rend compte que Dieu a payé une dette, la dette de nos fautes, mais que à cause de cela, nous avons une dette les uns envers les autres, celle de nous aimer, parce qu'on est dans une famille. Et la question qu'on peut se poser, si l'Évangile me permet de vivre près de Dieu, si l'Évangile me permet d'être apaisé dans mon âme, d'être assuré d'avoir le pardon de mes fautes, si l'Évangile me permet de me donner l'assurance que je suis un enfant de Dieu, comment est-ce que l'Évangile maintenant peut me permettre de vivre près des autres? Parce que si Dieu me permet de vivre près de lui, c'est pour que ça puisse rayonner autour de moi et que ça fasse une différence. Alors ce matin, on va lire un texte, ou plutôt Luc, dont c'est l'anniversaire ce matin. Pourquoi est-ce qu'on applaudit quand c'est la fête de quelqu'un? J'ai aucune idée.
Jaloux,
en tout cas,
jaloux.
Félicitations, Luc. Là. Mais ce matin, on va faire quelque chose. C'est notre dernière dans le livre de Romains. Mais ce matin, on va, d'une certaine manière, faire surtout le chapitre 14 et 15 jusqu'au verset 13. On n'ira pas jusqu'à la fin du chapitre 16. Premièrement, pour deux raisons. Premièrement, à la fin du chapitre 15, Paul parle surtout de ses projets futurs. Et au chapitre 16, il fait plein de salutations. Donc, à un moment donné, on veut finir Romains aussi. On veut passer à Daniel. Donc, ce matin, on va se concentrer d'une manière plus particulière sur le chapitre 14 et le chapitre 15 jusqu'au verset 13. Alors, Luc, je t'invite à prendre la parole.
Merci, Miguel. Donc, on va lire On va lire dans la seconde, dans Romains 14:1 jusqu'à 15:13. 14:1 à 15:13. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui se distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, ton genou fléchira devant moi et ta langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon ce qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Merci, Luc. Le texte qu'on vient de lire, vraiment un long texte, un texte qui nous lance sur plusieurs pistes au niveau relationnel. C'est un texte assez directif qui nous indique vraiment quoi faire dans la famille de Dieu, comment l'Évangile devrait influencer nos relations les uns avec les autres. Mais à la base, si on voulait un peu résumer la pensée de tout ce qui vient d'être lu, on pourrait lui donner la forme suivante. Par son accueil généreux et aimant au travers de son Fils, Dieu nous a ouvert largement le chemin afin que nos relations avec les autres dans l'Église soient tout aussi généreuses et aimantes. D'une certaine manière, ce qu'on voit ici, c'est que l'Église de Jésus-Christ établit à reproduire en elle ce qu'elle a déjà reçu de la part de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle fait pour s'approcher de Dieu, mais c'est quelque chose qu'elle a déjà reçu. Et donc, l'ayant déjà reçu, elle est appelée maintenant à le rayonner, à le reproduire en elle. Et la première chose que le texte nous dit à ce sujet, au chapitre 14, au verset 20, c'est que l'Évangile l'Évangile nous conduit à accueillir l'opinion de l'autre avec compréhension. L'Évangile nous conduit à accueillir l'opinion de l'autre avec compréhension. Regardez ce que nous dit le verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ce que souligne ce texte ici, c'est que en ce qui concerne nos relations les uns avec les autres, lorsque le croyant est libre d'exercer son jugement personnel sur les choses, il y a une chose qui est très importante. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre à coller une étiquette sur le point de vue de l'autre. On n'a pas de temps à perdre à essayer de le convaincre que son point de vue est mauvais et que le mien est bien meilleur. J'ai pas de temps à perdre à éviter ou ignorer telle personne parce que son opinion me fait friser les oreilles et que je suis pas habitué, ça me heurte, ça me bouscule dans mes habitudes, dans mes convictions, donc je l'évite à tout prix. Personnellement, vous savez, ce texte, c'est vraiment un défi énorme pour moi. Parce que, en dedans de moi, je suis vraiment un débatteur. Je suis quelqu'un qui aime ça argumenter. Ma femme Laura vous dirait que je suis un obstineux, mais ça, c'est une autre histoire. En lisant ce texte, ce que je me suis posé comme question, c'est quand je prends le temps de discuter une opinion, quelque chose sur laquelle la parole ne se prononce pas clairement, pourquoi est-ce que je cherche à discuter avec quelqu'un de son opinion et qu'est-ce que ça produit exactement? Mais la réponse n'a pas été très difficile à trouver. Quand je prends le temps de discuter une opinion avec quelqu'un, c'est pas pour essayer de comprendre comment il pense, c'est vraiment pour trouver le maillon faible dans son opinion puis convaincre que mon opinion est bien meilleure que la sienne. Des fois, je dis bien des fois, ça m'arrive d'avoir raison. À l'occasion, là, ça peut m'arriver de temps en temps, mais la question que je me suis posée, c'est quand ça arrive, qu'est-ce que ça produit au niveau relationnel? Quand j'arrive à mettre le doigt sur le bobo de l'opinion de quelqu'un et à lui démontrer qu'il y a une faille dans son opinion puis que la mienne est bien meilleure, qu'est-ce que je fais au niveau relationnel? Il y a une distance qui se crée. Hein? C'est drôle. On dirait que cette personne-là, bien, elle vient me parler moins souvent. C'est comme si elle m'évitait. On la croise dans le couloir, puis là, ou elle fait semblant de voir quelqu'un qu'elle connaissait, puis là, C'est comme, wow, attends une minute, qu'est-ce qui se passe là? Ben écoute, tu m'as blessé. Tu m'as meurtri en mettant l'accent sur quelque chose de secondaire, alors que l'essentiel, c'est quoi? À quoi nous invite ici le texte par rapport aux opinions? À nous accueillir les uns les autres. Ce que le texte nous dit ici, c'est que Paul nous donne cinq raisons pour lesquelles c'est plus important de s'accueillir plutôt que de coller une étiquette sur l'opinion de quelqu'un. Et voici les cinq raisons. C'est que premièrement, Dieu a déjà accueilli la personne qui a une opinion différente de la mienne. Donc, que je prenne le temps ou non de lui dire qu'elle a raison puis de lui prouver, ça change rien. Elle fait déjà partie de la famille. Dieu l'a accueilli. C'est un enfant de Dieu. Est-ce que je le traite comme un enfant de Dieu en faisant ce que je fais? Bien sûr que non. Deuxième raison, le Seigneur soutient chaque croyant, peu importe sa conviction personnelle. Le texte est très clair là-dessus. Troisième raison, ce qui compte vraiment pour Dieu, c'est le motif du cœur, c'est-à-dire la raison pour laquelle la personne a cette opinion-là. Pour quelle raison fait-elle ceci? Pour quelle raison fait-elle cela? Ça te regarde pas, bonhomme! Ce qui est important, c'est le motif du cœur de la personne qui a cette opinion-là. De quelle manière ça la rapproche de Dieu? De quelle manière elle se sent libre ou non de se teindre les cheveux en rouge? De manger du boudin? Quatrième raison. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas l'inside, Yannick, notre pasteur principal, mange du boudin. Alors, quatrième raison, le Seigneur est souverain et ce, indépendamment de notre avis. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le Seigneur aime la diversité dans l'Église. Il trouve ça sain que dans l'Église, il ait des opinions différentes et que si on arrive à un point où est-ce qu'on est incapable de tolérer l'attitude de quelqu'un parce qu'il a une opinion différente de la mienne, eh bien, dans ce temps-là, on se rebelle contre le fait que Dieu est souverain au-dessus de cela. Cinquième raison, c'est le Seigneur lui-même qui va juger la situation. Donc, si je prends le temps de juger l'opinion de quelqu'un, c'est quoi le rôle que je joue? Je joue un rôle qui ne m'appartient pas. Je joue à Dieu. Ce qu'on voit ici, c'est que l'Évangile n'a pas pour but de rendre nos opinions conformes les unes aux autres. Ce pourquoi Dieu, et Paul ici, permet qu'on ait des opinions différentes dans l'Église, c'est afin que ça sanctifie nos relations. C'est bon pour moi d'avoir quelqu'un à côté de moi qui a une opinion complètement différente de la mienne sur un sujet que la Bible ne se prononce pas, parce que ça m'aide à cultiver l'esprit de la pensée de Jésus-Christ dans ma vie. Ça m'aide à me sanctifier. Ça m'aide à voir comment je vais réagir dans mon cœur lorsque ma sœur ou mon frère va émettre une opinion qui va me dresser les cheveux sur la tête parce que je ne suis pas habitué à ça, j'ai jamais entendu ça. Mais la Bible ne se prononce pas là-dessus. Bon, OK, peut-être que je ne suis pas habitué, mais qu'est-ce que cette opinion-là va créer dans mon cœur? De la peur? De l'insécurité? De l'inconfort? Et c'est là que notre cœur se révèle, dit Paul. Et c'est là qu'il nous demande que la réaction, où est-ce que l'Évangile peut faire la différence, c'est qu'au lieu de juger ou mépriser, la pensée de Christ vient dans mon cœur. J'ai déjà été accueilli par Dieu. Et là, la réaction naturel pour quelqu'un qui est saisi par l'Évangile, c'est d'accueillir cette personne-là. Même si elle a une opinion différente de la mienne, jamais je vais lui faire sentir qu'elle est à part. Jamais je vais lui faire sentir qu'elle fait peut-être pas partie de la famille de Dieu. Pas juste avec mes mots, mais même avec mon attitude. D'une certaine manière, ce que Paul essaie de nous dire ici, c'est quand tu as une opinion différente de la tienne, sers-toi-en pour améliorer ta manière de vivre avec les autres. Sers-toi-en pour améliorer ta manière de vivre avec les autres. Même dans le monde dans lequel on vit, même dans le monde qui nous entoure, les gens évitent de juger les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se faire eux-mêmes juger. À la base, c'est un principe assez logique, il me semble, là, que je vais éviter de juger les autres pour ne pas moi-même être jugé. Ça peut permettre de bien vivre en société, mais à la base, c'est un peu égoïste aussi dans le sens que, OK, j'y ferai pas ça pour pas recevoir le char après, tu sais. OK. Mais est-ce que c'est vraiment ça, l'Évangile? Est-ce que c'est vraiment ça, l'Évangile? Lorsque l'Évangile forme la pensée de Jésus-Christ dans moi, cela me pousse non seulement à ne pas juger puis à tolérer la différence de l'autre, mais ça me pousse beaucoup plus loin. Ça me pousse à l'accueillir comme Dieu lui-même m'a accueilli. Ici, là, on voit vraiment la différence entre la tolérance et l'accueil. C'est quoi la différence entre les deux? Quelle est la différence entre tolérer l'opinion de quelqu'un et l'accueillir? Parce que le texte ne nous invite pas seulement à tolérer l'opinion de quelqu'un, mais il nous dit, si tu es vraiment saisi par l'Évangile puis émerveillé par la personne de Jésus-Christ, tu vas non seulement tolérer, mais tu vas l'accueillir. Vous voulez voir la différence entre les deux? Regardez comment Jésus a réagi devant la différence de l'autre. Il a touché le lépreux. Il n'a pas toléré le lépreux. Il l'a touché. Il s'est assis à la table des gens de mauvaise vie. Il n'a pas juste toléré. Il s'est assis et mangé avec eux. Il a secouru la femme adultère. Il n'a pas juste toléré. Il l'a secouru. Il a même encouragé l'apôtre Pierre après que celui-ci l'ait renié trois fois. Dans toutes ces situations-là, Jésus aurait été dans son droit d'éviter ces gens qui étaient tellement différents de lui. Il était dans son droit même de les ignorer ou même de les condamner. Au mieux, il aurait peut-être même pu les tolérer. Mais non, il a fait plus que cela. Christ les a accueillis. Accueillis dans le sens qu'il a fait un geste significatif pour eux. Un geste concret. Il avait un souci particulier de s'occuper de manière positive de celui qui était différent de lui. Et ce qu'on voit ici, c'est que la différence de l'autre pour Jésus, c'était pas une menace. C'était pas quelque chose qui l'agressait. C'était pas quelque chose qui lui faisait dresser les cheveux sur la tête. C'était plutôt une opportunité de se faire un serviteur. On l'a chanté, on va le chanter tout à l'heure. Christ est un roi serviteur, serviteur de notre différence. Je ne sais pas ce qui est pour vous, là, mais moi, je me considère assez différent de Jésus-Christ. Et pas dans le sens positif du terme. Et à la croix, ce que l'Évangile nous dit, c'est que Christ a pris ma différence et la vôtre, celle de l'humanité, et qu'il s'en est fait un serviteur, afin que le Père puisse éventuellement nous pardonner, nous donner accès à sa famille, nous recevoir, nous accueillir. Jésus a choisi de démontrer sa qualité, non pas en argumentant avec nous, mais en se présentant comme le serviteur de ma différence envers lui. Une citation de M. Martin Luther King qu'on a citée la semaine passée, mais bon, je ne savais pas qu'Yannick le citerait, donc je vais le reciter. Martin Luther King a déjà dit ceci, « Nous devons tous apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. » Principe assez clair. Hein, je pense que ça fait du sens, ce qu'il dit Monsieur King. On doit tous apprendre à vivre comme des frères. Et je ne dois pas laisser mon opinion m'ériger et me distancer de mon frère et de ma sœur. Sinon, je commence à agir comme un idiot. Un idiot, c'est ce que dit Paul. Perds pas de temps avec ça. Perds pas de temps avec ça. Et la question qu'on peut se poser également, c'est comment est-ce que je peux mettre tout ça en pratique? Lorsque ma perception de quelqu'un laisse à désirer à cause de la nature de son point de vue, lorsque l'envie monte en moi de coller une étiquette sur l'opinion de quelqu'un, « Ah, ça, s'il s'est fait teindre les cheveux en rouge, là, c'est parce qu'il veut attirer l'attention, il manque de maturité. Ah, tu vois, dans une couple d'années, il va changer. » On colle une étiquette sur ce que quelqu'un fait parce qu'il a une opinion différente de la mienne. Lorsque ça monte en moi la condescendance, parce que je considère mon opinion tellement plus spirituelle que telle autre, qu'est-ce que je suis censé faire? quand l'opinion de l'autre me trouble, me heurte, me bouscule, et qu'on dirait que mon envie d'argumenter ou de convaincre l'autre, ça monte en moi. Qu'est-ce que je suis censé faire pour bien accueillir cette personne-là et non pas la juger? Eh bien, premièrement, prends le temps de t'arrêter. Prends le temps de t'arrêter, pèse sur pause. Quand tu sens venir en toi, là, on a tous des symptômes, on le sait. Quand on est en train de juger quelqu'un, là, on sait très bien en dedans de nous ce qu'on est en train de faire. Prends une pause. Pèse sur stop. Prends un temps d'arrêt. Deuxièmement, admets honnêtement en dedans de toi ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire en évaluant la pertinence ou non d'une opinion qui est différente de la tienne? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben écoute, c'est pas compliqué, le texte nous le dit, je prends la place de Dieu. Je m'érige comme le roi qui a le droit de poser un regard sur une opinion où la Bible elle-même, bien souvent, n'a aucun enseignement précis là-dessus. Troisièmement, excusez-moi, dans mes notes, c'est pas clair. considère la manière dont Dieu a agi. Est-ce que Dieu a agi envers moi en portant un regard de jugement? Bien sûr qu'il m'a considéré en portant sur moi un regard de jugement. Le problème, c'est que, ben c'est pas un problème vraiment, c'est plutôt une grâce. C'est que ce jugement-là, je ne l'ai pas porté. C'est son Fils qui l'a porté. Et que s'il a eu un regard de jugement sur moi, ce jugement-là, Christ l'a porté à la croix pour que ce jugement-là devienne une grâce où Dieu m'accueille. Et c'est ça, accueillir l'autre comme Dieu m'a accueilli. C'est de refuser de jouer le rôle que Dieu joue dans la vie de l'autre et de lui faire grâce et de lui dire, voici, de la même manière que Dieu m'a accueilli étant différent, moi, je t'accueille comme un membre entier de la famille, même si ton opinion est franchement différente de la mienne, et même si je suis peut-être pas d'accord avec elle. C'est comme ça, mes amis, qu'on arrive un peu plus près de Jésus. Hein, vous vous souvenez, au début de l'année, on en a parlé. Comment je peux arriver un peu plus à la ressemblance de Jésus? Et cultive cette notion-là, ce principe-là, cette vérité qui est enracinée dans nos cœurs, que nous avons tout d'abord été accueillis par Dieu et que si l'autre pense différemment de moi dans une opinion, je n'ai pas à m'ériger en juge ou même avec dédain. Ce que j'ai à faire, c'est à être émerveillé de la grâce que Dieu a déployée envers moi, qui est si différent à travers la personne de Jésus. En regardant les choses comme ça, c'est un peu plus, je dirais pas facile, mais c'est un peu plus possible de regarder l'autre et de l'accueillir. Ce qui est intéressant, c'est que, également, Paul ne s'arrête pas là. Il ne parle pas simplement de ne pas mépriser ou juger les opinions des autres. Il parle également du principe qu'au lieu d'exercer mon jugement au détriment de l'autre, il va me dire également que l'Évangile nous conduit à exercer notre jugement en faveur de l'autre. On peut aller au passage, toujours au chapitre 14. C'est mon deuxième point. L'Évangile nous conduit à exercer notre jugement en faveur de l'autre. C'est comme ça qu'on accueille. Regardez, par exemple, ce que nous dit le verset 13 du chapitre 14. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par la personne, par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. » Ce qui est clair ici dans le texte, c'est que ce n'est pas parce que je suis capable de dealer, de composer ou de tolérer l'opinion de quelqu'un d'autre qui est différente de la mienne que je me situe nécessairement dans une position d'accueil. C'est pas parce que je suis capable de faire avec puis de passer par-dessus que mon cœur est prêt à accueillir cette personne-là qui fait partie de la famille de Dieu. Je peux très bien tolérer la vie de quelqu'un d'autre tout en étant complètement indifférent à l'influence que je peux avoir sur sa vie. La tolérance s'accommode très bien avec l'indifférence également. Et j'ai découvert un philosophe français que je connaissais pas, dit une phrase savoureuse à ce sujet. Le philosophe s'appelait Vladimir Jankélévitch. Bon, excusez-moi, toutes les lettres de l'alphabet là-dedans, finalement. Alors, M. Jankélévitch, voici ce qu'il dit, M. Jankélévitch. La tolérance est un moment provisoire. Elle permet à ceux qui ne s'aiment pas de se supporter mutuellement en attendant de pouvoir s'aimer. La tolérance est un moment provisoire. Elle permet à ceux qui ne s'aiment pas de se supporter mutuellement en attendant de pouvoir s'aimer. Ce qu'on voit ici, c'est que la tolérance, c'est un acte passif. C'est une étape qui doit mener vers autre chose. Et que s'endurer mutuellement, ça n'a rien à voir avec le fait de s'aimer véritablement. Par exemple, imaginez une famille où le but de tout le monde, ce serait de s'endurer les uns les autres. La job de papa, c'est d'endurer les attentes de maman. La job de maman, c'est d'endurer l'humeur de papa. La job des enfants, c'est d'endurer toutes les habitudes de papa et de maman. Imaginez le portrait, là. À un moment donné, le presto va sauter, c'est sûr. Quelque part, là, le fait de vivre ensemble doit aller plus loin que les principes de la tolérance. Et c'est ce que nous dit Paul. C'est ce que nous dit Paul ici que, notamment, mon souci de l'autre lorsque mon cœur est saisi par la pensée de Christ, est plus grand que mon privilège, que ma liberté d'agir. Regardez notamment ce que dit le verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Mon souci de l'autre, lorsque je suis saisi par la pensée de l'Évangile, devient plus grand que l'habitude, ou l'opinion, ou la liberté d'agir que j'ai. Imaginez, par exemple, un père de famille qui est en train de manger à table avec ses enfants. Tout d'un coup, il va prendre son assiette, il s'en va dans le salon regarder les nouvelles. Pendant que maman et les enfants demeurent à table. Ah, il est libre de le faire. Il est libre de faire ce qu'il veut, il est libre pour lui, c'est correct dans son cœur, il est bien à l'aise avec ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent face à ça? Comment voulez-vous qu'ils interprètent ce geste-là? Papa, finalement, il se fout de nous. Papa, finalement, il n'est pas prêt à se priver de quelque chose qu'il aime pour être simplement avec nous. Finalement, il veut juste passer du temps avec nous quand ça fait son affaire. Voyez-vous ici le portrait? Comment lorsque le privilège que j'ai d'agir est plus grand que mon souci de l'autre, ce qui arrive, c'est que le ciment de l'amour disparaît. Pourquoi? Parce que je n'aime plus l'autre. Je ne veux pas me soucier de l'influence que je peux avoir sur lui, sur sa vie. Lorsque ma liberté d'agir nuit à l'autre et le vire tout à l'envers, l'amour disparaît. Bien des gens autour de nous croient que le privilège que j'ai en tant qu'individu, c'est quelque chose de sacré. C'est très, très courant ça dans notre société. Ah, j'ai le droit de faire ça! Oui, c'est vrai, peut-être. Mais on oublie bien souvent que c'est pas parce que quelque chose nous est permis qu'on nous y avons droit sans aucun droit de réserve. J'oublie l'impact que ce que je fais peut avoir sur l'autre. Ça peut troubler quelqu'un, mon opinion ou mon agissement. Et voici ce que je vais faire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est troublé parce que j'ai fait ce matin en mettant ce chandail-là. Ouais, j'aime cette personne vraiment d'une manière incroyable à cause de la personne de Jésus. Puis c'est pas parce que je considère que ce chandail-là ce matin est quelque chose de mauvais en soi. C'est simplement pour la préserver, pour la garder et sentir que cette personne-là lui donnait ce contact-là, qu'elle fait partie de la famille et que ce contact-là est plus important que mon privilège de porter ce chandail-là ce matin. C'est exactement de cette manière-là que Dieu, par la personne de Jésus, a agi envers nous. Dans Philippiens, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, voici ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet de la personne de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme étant une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Excusez-moi. À la gloire de Dieu le Père. Dans ce texte de Philippiens, ce qu'on vient de voir, c'est que Jésus-Christ a lui-même renoncé à certains de ses droits pour notre profit. À un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ a décidé, par la volonté de son Père, de quitter le confort de son royaume céleste pour venir vers nous et renoncer à certaines choses qu'il était. Sur terre, Jésus-Christ n'était plus omniprésent. Il s'est incarné. Il a refusé certaines choses qu'il était. Pourquoi? Afin que tout genou fléchisse et rende gloire à Dieu. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu nous explique que non seulement Jésus-Christ a renoncé à certains droits pour notre profit, mais également, il nous explique pourquoi il l'a fait. Il a décidé de voir en nous ce que nous n'étions pas. Jésus-Christ a renoncé certains de ses droits avant même que nous nous mettions nos genoux devant lui, avant même que nous nous repentions, que nous reconnaissions notre état de pécheur, avant même que nous devenions son Église. Jésus-Christ a vu en nous quelque chose de précieux, quelque chose que quand je regarde Ginette, quand je regarde Jean-Sébastien, quand je regarde Samuel, quand je regarde tout le monde ici, Jésus-Christ dit, ça vaut la peine que je renonce à certains de mes droits pour le salut de ces âmes qui sont perdues. Ils ne peuvent rien faire pour s'approcher de moi, donc je vais renoncer à certains de mes droits pour aller vers eux et les inclure dans ma famille, les accueillir. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on peut renoncer pour mieux édifier. Jésus-Christ a édifié son Église en renonçant à certains de ses droits. Et ce principe-là demeure maintenant dans l'Église. C'est en renonçant à certains de nos droits, comme en portant ce chandail ce matin, qu'on peut mieux s'édifier les uns les autres. Pas seulement en se tolérant, mais en s'aimant véritablement. Jusqu'au point qu'on est prêt à se priver de quelque chose que j'aurais droit, simplement parce que l'autre est tellement plus important que mon droit d'agir. Mon désir, c'est de prendre soin de lui, de son cœur. Mon désir, c'est que mon frère et ma sœur puissent voir une utilité dans le grand corps qui est l'Église et que par mon souci de lui, il y ait quelque chose qui se tisse à travers le Saint-Esprit, qui soit indestructible et que malgré l'opinion que j'ai de peut-être différent de telle personne, eh bien, je m'en fous parce que je t'aime. Parce que je t'aime comme Christ m'a aimé. Évidemment, se soucier de l'autre ne se limite pas à accepter son opinion. Ça ne se limite pas à la tolérer et ça ne se limite pas non plus à ne pas faire des choses qui pourraient lui nuire. Le texte de Paul ici est très clair. Également, l'Évangile, comme troisième point, nous conduit à des gestes positifs envers les autres. Dans le texte, on voit ça clairement à partir du chapitre 15 au verset 1. On nous dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur toi. » Ce qu'on voit ici dans le texte, c'est que l'unité relationnelle de l'Église, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose où est-ce qu'on n'a rien à faire. C'est quelque chose où l'on peut agir. Vraiment de manière incroyable, les uns avec les autres. C'est intéressant ici, le texte ne dit pas ou ne nous suggère pas de faire attention aux faiblesses de ceux qui peuvent avoir des opinions différentes des miennes. Il nous dit pas « fais attention », il nous dit « supporte les faiblesses, porte-les ». Sa faiblesse, d'une certaine manière, bien, t'as une dette morale et spirituelle envers ce frère-là. Il a besoin de ton amour. Il a besoin de ton ouverture, de ton accueil. Il a besoin, la dernière chose qu'il a besoin, c'est que t'essayes de le faire changer d'idée. La dernière chose que t'as besoin, c'est d'être jugé, d'être méprisé, d'être mis à l'écart. Ce qu'il a besoin, c'est de sentir que son frère et sa sœur voient en lui quelqu'un de significativement positif pour lui, même s'il a une opinion qui est un élément qui contribue à la santé de l'Église, même si sa pensée n'est peut-être pas pareille comme la tienne. Nous avons tous en Jésus-Christ une dette morale envers l'autre. Parce que Dieu ne nous a pas donné une liberté d'agir pour en user de manière bête et stupide. Dieu nous a donné cette liberté pour que toute l'Église en profite. Et pas juste nous individuellement. À quelque part, le projet de Dieu, ça me concerne pas nécessairement juste moi. Le projet de Dieu, il est communautaire. C'est pas juste un rapport entre moi et Dieu. C'est un rapport entre l'Église, qui est l'épouse et le corps de Christ, et le Père. Et à ce moment-là, quand je comprends ce concept de la famille, eh bien, ça m'aide à voir dans l'autre quelqu'un qui est nécessaire. J'ai besoin absolument de l'autre pour contribuer au projet de Dieu. J'ai besoin absolument de l'autre pour contribuer au projet de Dieu. Et à ce point-là, il y a un modèle parfait qui est incarné, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il a renoncé à ses droits célestes pour venir sur la terre, il a vu en nous quelque chose que personne d'autre n'a vu. Il a vu des gens avec qui il pouvait changer la face de l'humanité. Il a vu dans les pauvres êtres humains qu'on était, des gens qu'il pouvait renouveler, avoir un impact illuminé de sa grandeur et dire, avec ces gens perdus, je vais construire mon royaume. Est-ce que Dieu avait besoin de nous pour construire son royaume? Absolument pas. Il n'avait pas besoin de nous pour faire ça. Mais il a décidé de voir en nous, dans les êtres humains perdus que nous sommes, des gens nécessaires pour le faire. Pas parce qu'il avait besoin de nous, mais parce qu'il a décidé de cultiver ce regard-là sur nous. Voici avec ces gens-là, je vais m'en servir pour construire mon royaume. Je vais m'en servir pour rayonner sur la terre. Et c'est le même défi qui est pour nous ce matin. De voir dans l'autre quelqu'un qui est absolument nécessaire pour construire ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans son Église. Et lorsqu'on cultive ce genre de rapport-là avec l'autre, vous savez ce qui arrive? Eh bien, on ne juge pas l'opinion de l'autre. On ne la méprise pas non plus parce que l'autre est nécessaire. Donc, si je le brusque, je le bouscule, puis je le heurte, puis si je ne fais pas attention à lui, ben je vais le perdre. Donc, je vais perdre un élément qui peut contribuer au corps de Dieu. Et j'en ai besoin, comprenez-vous, quelque part? J'ai absolument besoin de cet être humain-là, de ce frère et de sa sœur. J'ai besoin de prendre lui pour qu'il puisse contribuer à la gloire de Dieu. Vous savez, l'accueil, on s'est engagé cette année en tant qu'Église à poursuivre cette valeur-là de manière intentionnelle. Ça fait partie de notre vision, ça fait partie de notre mandat, ça fait partie de notre mission. On a le vif désir de devenir une assemblée où est-ce que l'accueil entre nous, ça devient comme une seconde nature. Ici, oui, c'est par rapport à l'Église, mais on peut facilement, très facilement également faire un rapport avec les gens hors de l'Église. De quelle manière je cultive cette philosophie-là d'accueil que j'ai reçue de la part de Dieu et de quelle manière je la reproduis dans mes vies envers mon frère et ma sœur, mais également envers ceux qui ne partagent pas la même foi que moi. Ici, on ne parle pas d'opinion, on parle de principe de doctrine. On parle du salut, on parle d'évangile. L'accueil, ça peut prendre toutes sortes de formes. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, c'est très simple. Parfois, c'est inconfortable. Il y a des gens pour qui tendre une poignée de main, esquisser un sourire, inviter quelqu'un à manger, c'est la fin du monde. Pour d'autres, c'est facile comme tout. Mais vous savez ce qui est incroyable? C'est que même si c'est un défi particulier pour chacun d'entre nous, l'accueil, c'est pas juste l'affaire de quelques-uns. L'affaire, c'est que l'accueil ici, à l'Église de l'Espoir, la manière comme le présente Paul, c'est l'affaire de tout le monde. Comment est-ce que vous pouvez contribuer à cet accueil-là? Vous êtes assis à des places ce matin? Est-ce que vous avez déjà songé à « Hey, ce matin, là, je vais m'asseoir puis je vais regarder autour de moi. » C'est des gens que je ne connais pas. C'est des gens que je ne connais pas, là. Y a-t-il des gens à qui je n'ai jamais parlé? J'ignore le nom. J'en suis convaincu. Au nombre qu'on est ici ce matin, là, j'en suis persuadé. Une manière de s'accueillir, ça peut être simplement d'aller voir et de cultiver, de se dire, bon, ben pendant la prochaine année, je veux au moins connecter ou simplement prendre un 5 à 10 minutes avec quelqu'un à tous les mois. À tous les mois, je vais prendre un 5 à 10 minutes avec quelqu'un dont j'ignore même le nom. Ça peut être aussi simple que ça. Pour les gens qui se sentent insécures, pour les gens qui, peut-être c'est un plus gros défi, pour d'autres, ça va être d'autres choses. Vous savez, un petit instant, j'ai perdu ma conclusion. Voilà. À quelque part dans notre vie, Dieu est venu à notre rencontre. Dieu nous a accueillis. Puis c'est possible que dans ton contexte d'Église, peut-être que tu n'as pas vécu cet accueil-là. Peut-être que quelqu'un t'a troublé par une parole blessante à propos d'une opinion que tu as émise. Peut-être que c'est un regard qui t'a blessé, qui t'a meurtri. Puis peut-être que tu te dis, écoute, Miguel, ce que tu viens de nous lire ce matin, là, moi, je n'ai jamais vécu ça dans l'Église. C'est possible. C'est possible. Mais ce que Dieu nous dit ce matin, c'est que ce besoin-là d'être accueilli, jamais tu pourras l'avoir autrement que par la personne de Jésus-Christ. Et que non seulement Jésus-Christ veut te réconforter, te soulager et t'accueillir comme tu l'espères, mais qu'en plus de t'accueillir, il veut t'amener à peut-être répondre à quelque chose que tu n'as pas reçu envers quelqu'un qui en aurait lui besoin. Ce que tu as manqué, peut-être que tu peux le donner à quelqu'un d'autre et que tu sais exactement de quoi je parle ce matin en étant meurtri, isolé, parce que tu l'as vécu et que tu étais plus sensible à telle autre personne qui vit ça dans sa vie et que tu peux être l'élément d'accueil pour cette personne-là. Et ce qui te permet d'être l'élément d'accueil de cette personne-là, avant tout, c'est l'accueil que tu as reçu de Dieu. On veut pas juste être accueillant pour être accueillant. On veut être accueillant parce que l'Évangile a fait une œuvre dans nous et que la pensée de Christ renouvelle constamment nos pensées. C'est exactement ce Dieu-là qu'on veut célébrer ce matin. Ce Dieu-là qui est venu vers nous et qui nous a accueillis pour clôturer cet épître de Romains en nous disant, ici on est une famille. On est une famille qui s'accueille. Et n'importe qui vient ici, notre désir profond, c'est qu'ils puissent se sentir accueillis comme Christ lui-même nous a accueillis. On va juste se courber dans quelques instants de prière. Seigneur éternel, Père du ciel, C'est tellement bon de venir vers toi et de savourer ce moment dans les Écritures que tu nous permets d'avoir avec toi. Ce moment où est-ce qu'on voit que ta grâce désire faire une œuvre en nous, une œuvre qui nous fait grandir pour la gloire de ton royaume. Seigneur, si nous voulons grandir dans notre accueil pour toi, ce n'est pas pour s'approcher de toi nécessairement. Ce n'est pas pour qu'on soit plus acceptable, plus juste à tes yeux, meilleur que les autres. Mais si on veut le faire, c'est tout d'abord parce qu'on veut regarder vers toi. Et qu'on est tellement illuminé, Seigneur, de ta grandeur, de l'accueil que tu nous as donné, que ça devient pour nous quelque chose qui déborde. Quelque chose qui vient naturellement. Oui, Seigneur, on a tous à nous motiver, à nous encourager les uns les autres, à s'accueillir comme toi-même tu l'as fait envers nous. Et donne-nous cette pensée ultime, qu'en tant que roi serviteur de notre différence, tu nous invites maintenant, chacun d'entre nous, à être une famille de serviteurs qui, les uns les autres, non seulement vont tolérer la différence, non seulement vont se soucier de l'autre, non seulement vont faire des gestes concrets, positifs pour les autres, mais qu'à la base, Seigneur, dans tout cela, c'est toi qui es honoré. C'est toi qui resplendis dans nos cœurs. Que ce mot, Seigneur, puisse s'élever vers toi et nos vies être pour toi un parfum d'offrande et d'accueil. Au nom de ton Fils. Amen.